Cette fin d'année 2024 est chargée sur le front de la diplomatie environnementale. La COP 16 biodiversité s'est achevée il y a quelques jours à Cali, en Colombie, après 2 semaines de travaux. La COP 29 climat s'ouvre le 11 novembre à Bakou, en Azerbaïdjan. Et la COP 16 désertification se tiendra à Riyad, en Arabie Saoudite, à compter du 2 septembre. De nombreux médias, dont RFI et son service environnement, vont se faire l'écho de ces 3 moments, car il est important que nous soyons tous et toutes bien informés sur l'urgence écologique. L'habitabilité de notre planète est en jeu.
On pourrait se dire que si des archéologues du futur venaient à investiguer les villes d'aujourd'hui, ces archéologues-là auraient tendance à dire « Mais ma foi, on a créé les villes pour rendre les voitures heureuses et non pas les humains heureux. »
Salut, c'est Steven Jambot, vous écoutez l'Atelier des médias. Pendant une 20aine de minutes à la radio et en podcast, je vous propose de découvrir 1.5 qui se présente comme le média de l'action climatique au Québec. Et son approche, c'est d'ancrer les enjeux climatiques globaux à l'échelle locale et individuelle. Début octobre, 1.5 est arrivé en 2e position parmi les 3 lauréats du prix francophone de l'innovation dans les médias, décerné par l'Organisation internationale de la francophonie, Reporters sans frontières et France Média Monde, la maison mère de RFI. C'est à cette occasion que j'ai conversé avec l'une des cofondatrices d'1.5. Bonjour Clémence Lalose.
Bonjour.
Que représente ce prix francophone de l'innovation dans les médias pour un média comme le vôtre ?
C'est une superbe reconnaissance. Ça fait 7 ans qu'on travaille à essayer de faire les choses différemment et puis à innover. Depuis le départ, notre volonté, c'était de faire les choses différemment pour avoir plus d'impact. Et justement, de recevoir ce prix en innovation médiatique, c'est vraiment une belle reconnaissance qui nous booste à en fait, continuer à innover et trouver une nouvelle façon de faire.
Alors, revenons à la genèse, au début de 1.5. C'est Philippe Poitras qui a eu l'idée en 2011 de créer ce média avec un constat de départ. C'était qu'à l'époque, au Québec, les médias parlaient d'écologie sous l'angle catastrophique.
Oui, beaucoup.
Il était temps d'agir.
À nos yeux, trop. Aux yeux de la littérature scientifique aussi, parce que c'est prouvé que la peur n'est pas un moteur d'action. Et que c'est pas en faisant peur aux gens qu'on va les amener à changer leur comportement. Donc nous, on voulait contrebalancer ça parce que la peur dans certains contextes auprès de certaines personnes peut fonctionner, mais pas auprès de tout le monde. Fait qu'on voulait juste apporter un contre-discours, apporter un petit peu de positif dans tout ça aussi. C'est pour ça que l'angle solution, dès le départ, s'est imposé comme la voie à suivre. Et puis on avait cette volonté aussi d'amener un volet recherche parce que et on avait l'impression que la communication climatique, parce que nous, on était vraiment climat, était très, en bon français, top-down, à dire aux gens
de
quoi faire.
De haut en bas, voilà, ouais, très descendante.
Exact, très, très injonctive, à dire aux gens quoi faire. Puis c'est pas non plus quelque chose qui fonctionne, et puis ça, il n'y a pas besoin de grandes études scientifiques pour le savoir. Il suffit de voir quand quelqu'un nous donne une injonction. Il y a une part de nous qui a comme envie de résister à ça. Donc on voulait trouver une nouvelle façon de faire, mais c'est pas facile.
Et donc, on va revenir sur la dimension recherche après, mais restons sur la première partie, les solutions. Ouais. Votre constat, c'était qu'il y avait plein de choses qui se faisaient sur le terrain, mais qu'elles n'étaient pas valorisées dans un traitement éditorial. Et c'est là que vous avez souhaité intervenir d'abord.
Oui, parce qu'en fait, notre hypothèse de départ, c'était que si les gens voient que ça bouge autour d'eux, ils auront plus le goût d'avancer. C'est ce qu'on appelle la norme sociale perçue. Sauf que l'action climatique, souvent, c'est quelque chose, en tout cas pour les individus en tant que citoyens, c'est quelque chose de personnel qui se passe beaucoup entre les 4 murs de la maison. C'est qu'on pense à la réduction d'énergie, au compostage, à comment est-ce qu'on mange. Même prendre l'avion, c'est pas des choses qu'on voit forcément. Fait qu'il y en avait plein d'actions climatiques partout au Québec, mais les gens le voyaient pas. Fait qu'on voulait mettre la lumière sur ces initiatives-là, et puis à tous les niveaux, pour montrer que c'est pas juste les citoyens qui bougent, parce qu'on le voit aussi dans les différents sondages, que les gens ont l'impression que ça bouge pas au niveau des entreprises, ça bouge pas au niveau des gouvernements, des municipalités. Et qu'on voulait montrer qu'en fait, il y a des acteurs à tous les niveaux et que la norme sociale, elle est dans l'action. Et puis, on voulait mettre la science là-dessus. C'est pour ça qu'on a commencé vraiment avec juste des contenus qu'on appelait s'inspirer, qui étaient montrer des initiatives, mettre en avant les humains qui portent ces initiatives-là pour que les gens puissent s'y identifier et puis pourquoi pas vouloir passer à l'action eux aussi ?
Alors ce qui est intéressant, c'est que vous êtes un média, 1.5, mais que pour la plupart d'entre vous, vous ne venez pas du tout du milieu journalistique.
En fait, les deux cofondateurs, non, pas du tout. On a une équipe de journalistes très, très chevronnée à l'interne. Mais non, nous, on arrivait un peu comme des néophytes dans ce milieu-là. Et puis, c'est sûr qu'on détonnait peut-être un petit peu de par notre approche de 1.5, de par notre historique aussi. Mais ça ne nous a pas arrêté parce qu'on croyait vraiment à ce qu'on voulait faire. Puis, au contraire, ça a peut-être fait la force du média pour nous permettre de penser les choses différemment. Moi, j'arrive du monde du marketing. J'apportais cette dimension-là aussi. Fait que peut-être qu'au contraire, ça nous a amené dans un processus d'innovation à pouvoir innover plus facilement tout en ayant l'assise journalistique. On est reconnu par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Donc on a comme, à mes yeux, le meilleur des deux mondes, en fait.
Mais l'idée aussi, pour vous, c'était de changer les récits et de vous appuyer aussi sur des données, et notamment sur la science et la recherche scientifique. On y revient. Vous appuyer sur la science était impératif si vous vouliez avoir un impact. Ça, c'est ce que vous aviez mesuré.
La science, c'est large. Oui, on s'appuyait dessus, et puis à plusieurs niveaux. D'abord, on a toujours eu une recherchiste scientifique à l'interne pour la vérification des faits scientifiques, des données. Ça, c'était pour nous indispensable en termes de crédibilité. C'est comme la base, si on n'avait pas la crédibilité, on n'était pas capable d'avoir de l'impact. Donc pour ça, nos différentes recherchistes scientifiques, je peux dire qu'elles s'en sont tapées des études scientifiques pour aller nous chercher des chiffres, parce qu'on voulait autant que possible illustrer. Quand on dit une tonne de CO2, ça parle à personne en équivalence. On voulait trouver des équivalences pour que les gens puissent ramener ça dans le quotidien et puissent se rendre compte un petit peu de ce que ça voulait dire. Donc ça, c'est le premier volet, le volet plus science. Et après, effectivement, nous, depuis le départ, on veut autant que possible évaluer notre impact. Ce qui est un bout très difficile, parce que comment est-ce qu'on mesure des évolutions dans les attitudes, dans les croyances, dans les changements de comportement? Et puis, c'est des choses qui prennent du temps aussi. Les croyances, c'est pas quelque chose qui se modifie en 6 mois. Fait qu'on a quand même cette volonté-là d'essayer de voir l'impact qu'on a au niveau individuel et puis au niveau systémique aussi, parce que notre mission, c'était aussi de faire évoluer, contribuer à faire évoluer les pratiques journalistiques. Puis le troisième volet scientifique, c'est vraiment trouver des nouvelles façons de faire pour parler de climat d'une façon qui rende la chose plus désirable, en fait, qui donne le goût juste aux gens d'écouter ce qu'on a à dire, parce que souvent, le sujet est perçu comme rébarbatif, trop scientifique, culpabilisant, etc. Fait qu'on voulait trouver des façons de contrer ça. Donc on s'est vraiment associé avec des chercheurs au départ, et puis maintenant on a de la recherche à l'interne pour tester. Donc c'est vraiment, la recherche fonctionne un peu comme un laboratoire en synergie avec le média. On a des hypothèses dans la littérature qui nous disent « Ah, ça pourrait fonctionner, on va le tester, on voit si ça marche ou pas, on retourne à la table à dessin pour corriger, et puis on relance. » C'est ça qui fait la spécificité de notre média, entre autres.
Alors, Clémence Lalo, ce qui est intéressant aussi, si l'on va sur le site internet de votre média 1.5, ce sont les rubriques. Elles s'intitulent « S'inspirer, comprendre, agir et jeunesse ».
Ouais.
C'est votre carte d'identité.
Elle s'est construite au fur et à mesure du temps. On a vraiment commencé avec le « S'inspirer ». Donc, on faisait juste des reportages sur des initiatives.
Donc c'est pas juste informer, c'est s'inspirer. Et c'est pas inspirer, oui. C'est s'inspirer.
Oui.
Donc avec l'approche de s'adresser à une personne, ou en tout cas pour qu'elle y trouve son compte.
Exact, on voulait raconter des histoires de gens qui, dans leur milieu professionnel, dans leur vie personnelle, s'impliquent, font des choses, et puis des choses qui n'ont pas besoin d'être fantastiques non plus. On voulait en proposer pour tous les goûts, pas juste pour les gens qui sont hyper convaincus déjà et hyper engagés. On voulait montrer aussi que c'est possible pour des gens qui n'ont pas la réalité d'avoir une épicerie en vrac juste à côté, et puis des transports en commun à disposition et une offre VG. Fait qu'on voulait montrer qu'il y en a pour tous les goûts. Et puis oui, c'était pour nous vraiment cette dimension-là de s'inspirer. Et en avançant là-dedans, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un niveau de connaissance des changements climatiques qui étaient plus faibles que ce qu'on pensait en fait au départ, qui a été confirmé par le baromètre de l'action climatique, qui est un sondage qu'on a co-initié avec l'Université Laval à Québec.
Vous avez fait en 2019.
Qu'on a commencé en 2019, et dans lequel, alors je ne me souviens plus si c'était la première année, mais dans les années suivantes, on a essayé de mesurer justement la compréhension sur certains termes clés comme gaz à effet de serre, compensation, économie verte, un terme qu'on utilise beaucoup au Québec. Puis on s'est rendu compte qu'en fait, les gens ne comprenaient pas tant que ça. Fait que, on s'est dit qu'il fallait qu'on revienne à la base, si on voulait que les gens comprennent, il fallait que, on explique certains concepts de base. Donc c'est pour ça qu'on a rajouté la catégorie comprendre, qui se voulait plus une catégorie pédagogique, même si on le sait dans la littérature, comprendre ne veut pas dire agir, au contraire. C'est une condition nécessaire à un certain niveau, mais ça prend d'autres choses. Mais on se disait, pour certaines personnes qui cherchent à comprendre, au moins il y aura cette section-là. Puis l'avant-dernière, c'est agir. Nous, on pensait que les gens, encore un peu naïvement, savaient quoi faire. Puis en fait, pour beaucoup, il manque de conseils pratiques. Les gens nous nommaient qu'ils avaient soif de savoir comment faire, comment agir de façon très concrète. Donc là aussi, on a rajouté cette section, peut-être au bout d'un an, pour ramener ça dans le quotidien, avec toujours notre approche très bienveillante, très accessible. On suggère des façons de faire, des conseils pratiques, mais on n'impose à personne et puis on ne dit jamais que c'est la chose à faire, parce qu'on a conscience que les réalités sont différentes pour tout le monde, que ce soit suivant où tu vis, suivant ton niveau de vie, etc. Fait que ça se veut le plus ouvert à tout le monde pour que chacun puisse venir et puis prendre ce qu'il a envie d'y prendre et ce qui est réaliste pour lui.
On reviendra tout à l'heure sur la dernière rubrique, ouais. Jeunesse. Clémence Lalose, lorsque l'on lance un média, on peut parfois naïvement se dire « je veux parler à tout le monde ». Et vous, et bien fort de vos recherchistes en interne et des sondages, etc., que vous avez pu mener, et bien maintenant vous avez une idée assez précise de la cible qui est celle de votre média 1.5. Dites-nous tout.
On a commencé naïvement en se disant on va parler à tout le monde. Et en fait, ça marche pas. Parce qu'en essayant de parler à tout le monde, finalement on arrive à bien parler à personne. Et ça a été notre constat. On a longtemps parlé à un public plus engagé, déjà convaincu, parce que naturellement, il venait plus naturellement vers nous. Et puis je pense que c'est des témoignages qu'on a eus au cours des années, ils aspiraient aussi à du positif, à des nouvelles positives, à un peu d'espoir dans leur parcours et dans leur engagement. Fait qu'on leur a amené ça. Donc ça, pour nous, ça nous est vraiment chaud au cœur d'entendre à quel point on contribuait à juste leur redonner de l'espoir. C'est des personnes déjà engagées. Et ce qu'on se rend compte, c'est que collectivement, au Québec, on a comme du mal à parler à une frange de la population qui est consciente de l'enjeu, mais qui agit encore peu dans son quotidien. Puis ça, c'est à peu près un 70% de la population, ce qui est quand même un gros morceau de la population. On s'est dit, comment est-ce qu'on peut aller leur parler? Puis c'est là où on se rend compte que malgré nos efforts, c'est pas facile du tout. Et c'est là que notre volet recherche rentre en jeu, parce qu'il y a besoin de trouver, de chercher, d'expérimenter des façons de faire pour arriver à connecter avec eux. Donc c'est de ramener ça dans leur quotidien. On a plein de pistes, de ramener ça dans leur quotidien, de ramener de l'empathie aussi, qui est un mot un petit peu galvaudé en ce moment, mais qui pour nous est fondamental, justement parce que dans nos hypothèses, c'est que ces gens-là se sentent coupables ou ont l'impression qu'on leur impose des choses. Il y a besoin de ramener de la compréhension, du dialogue avec ces gens-là, parce que c'est pas qu'ils sont contre, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est pas qu'ils ils sont pris avec des habitudes, ils sont pris avec une norme sociale autour d'eux, avec un contexte aussi qui font que le changement, c'est pas facile, mais pour personne, c'est facile le changement. Fait que d'arriver avec de l'injonctif, c'est pas quelque chose qui arrive à les rejoindre. Donc nous, ce qu'on va essayer, c'est d'autres approches en mode expérimentation, de voir comment est-ce qu'on peut. Donc c'est vraiment pour les prochains mois, les prochaines années, c'est vraiment vers ce public cible-là qui n'est pas du tout homogène. Il y a plein de sous-segments.
Des conscientisés peu engagés, oui.
C'est ça. Il y en a pour qui, on le voit dans la littérature, on a un sondage qu'on est en cours d'analyse, qui devrait nous permettre d'avoir plusieurs profils, justement, une segmentation de la population. Mais on le sait, il y en a pour qui c'est parce que la croyance que la technologie va nous sauver. Eux, on va pas du tout leur parler de la même façon qu'à des personnes qui vivent de l'anxiété, par exemple. Donc c'est là où il y a des approches communicationnelles qui doivent être différentes qui vont nous arriver par la recherche.
Clémence Laloz, pour aller à la rencontre de son public, pour un média qui existe principalement sur Internet, il y a de gros enjeux de distribution. Et au Québec, au Canada, ce sont maintenant des défis, un véritable défi, puisque les médias d'information ne sont plus sur Meta, Facebook et Instagram depuis août 2023. On en parlait en longueur dans l'atelier des médias du 1er juin 2024. Il vous faut donc bâtir de nouveaux canaux de diffusion, ce qui est un défi, là encore.
Un gros défi.
On fait comment alors ?
On fait comme on peut, quand on a peu de moyens. C'est sûr que du jour au lendemain, de se faire couper Meta, nous, Facebook, c'était 50 000 personnes qui nous suivaient, c'était notre canal principal de diffusion. Donc du jour au lendemain, en plein été, quand la moitié de l'équipe est en vacances, c'est un gros défi. C'est se retrousser les manches, essayer encore une fois d'innover, même si, pour le coup, on a comme pas le choix de repasser par des recettes traditionnelles. Donc on s'est ouvert un compte TikTok pour diffuser nos contenus, ce qui fonctionnait bien anyway avec notre stratégie de vouloir toucher davantage les 18-35 ans. On est en train de développer l'infolettre. Donc on avait une infolettre déjà, on est en train d'augmenter la taille de notre base de données qui était de 10 000 personnes, parce que justement c'est un public... c'est des adresses qui nous appartiennent, plus personne ne peut nous couper ce canal-là.
C'est un lien direct avec les audiences, oui.
Oui, et puis on voit, nos taux d'ouverture sont vraiment bons. Donc c'est ça. Et puis on est en train de créer un nouveau micro-site qui sera plus vidéo, plus à destination des 18-35, qui devrait être mis en ligne novembre-décembre, suivant les aléas de la mise en ligne d'un nouveau produit comme ça. Mais donc on essaie de trouver de nouveaux canaux, effectivement, parce que Meta n'est pas parti pour revenir dans les prochains mois.
Et l'enjeu aussi pour vous, c'est d'élargir cette audience, bien sûr, mais aussi de trouver des financements ou de pérenniser certains financements pour continuer votre activité de sensibilisation du public. Où en êtes-vous sur ce point-là ? Alors j'imagine que la dotation de ce prix francophone de l'innovation dans les médias de 10 000 euros va vous donner un petit coup de pouce.
Oui, c'est sûr que ça fait plaisir. On est un peu pris, c'est un peu spécial parce qu'on a un média donc sans but lucratif, on est vraiment un projet d'impact social. Donc dans les modes de financement traditionnels, on voit beaucoup au Québec se développer la formule d'abonnement, sur laquelle on n'a pas encore réussi à statuer parce que c'est une source de revenus qui peut être importante, c'est certain, et en même temps on a une volonté d'impact, donc d'être diffusé auprès du maximum de personnes, sachant qu'on vise des gens qui ne sont pas a priori intéressés à lire à chaque jour sur le climat, c'est pas forcément des gens qui vont être prêts à payer pour. Donc à voir comment est-ce qu'on articule ça entre la volonté de payer et puis notre volonté d'impact. C'est toujours un juste milieu à trouver sur lequel on oscille. On a la chance d'être un organisme de bienfaisance, fait qu'on a le droit d'émettre des reçus de charité, fait qu'on va développer au cours des prochains mois les donations individuelles et corporatives, c'est certain. Puis on a une mission, veux pas, en étant un projet d'impact social, dans notre théorie du changement, figure la mobilisation des connaissances auprès de l'écosystème. C'est-à-dire que comme on fait de la recherche, on développe des nouvelles connaissances, et puis nous, ce qu'on veut, c'est en faire bénéficier l'ensemble de l'écosystème, que ce soit les milieux journalistiques ou les communicateurs en général. Fait que ce travail de pionnier, en fait, peut être financé aussi par des fondations qui croient en ce travail-là et puis qui veulent outiller l'écosystème pour la suite des choses. Fait que c'est une autre avenue qu'on explore aussi.
En parlant d'outiller l'écosystème, Clémence Laloz, parlez-nous rapidement du guide pratique du journaliste climatique. Quel était l'esprit derrière ce guide ?
L'esprit, c'était de faire profiter l'ensemble des journalistes et des médias québécois des bonnes pratiques qu'on avait pu identifier au cours des 7 dernières années. C'est vraiment cette volonté-là. On a eu la chance d'avoir un financement de la Fondation McConnell qui nous a permis de réaliser ce guide-là. Donc c'est un guide qui a été diffusé en juin 2023 qui couvre plusieurs points. Ça va de l'éco-blanchiment. Comment faire attention en tant que journaliste à ne pas tomber dans l'éco-blanchiment, par exemple avec le terme carbone neutre qui est très dangereux, on va dire ça comme ça. À comment parler climat quand on ne travaille pas comme journaliste environnemental, parce que c'est ça aussi, c'est que le climat, il est dans tout, il est autant en économie que dans l'urbanisme, que même dans les sports ou dans les loisirs. C'est qu'on voulait montrer aux journalistes que c'est possible et même nécessaire d'aborder la question climatique sous ces bits-là. Ça va aller aussi à la vérification des sources scientifiques, justement. Souvent, c'est très scientifique, le climat. Fait qu'en tant que journaliste, à quelle source on peut se fier, à quelle non, c'est quoi la différence entre une source primaire et secondaire. Fait qu'on va dans ces choses-là. Puis notre rédacteur en chef, Rémi Leroux, assure des formations justement auprès de journalistes à travers notamment l'Association des journalistes indépendants du Québec et la Fédération professionnelle pour mobiliser ces savoirs-là auprès des journalistes.
Et vous essayez aussi de vous adresser aux jeunes qui peut-être seront des futurs journalistes avec l'aide et le soutien de la Fondation Monique Fitzblack. Expliquez-nous.
C'est une idée qu'on a eue il y a 5 ans maintenant, d'accompagner des jeunes du secondaire, donc entre 11 et 17 ans, qui, parce qu'on le sait, les jeunes, on le voit dans les sondages, ils ont une soif, pas pour tous, encore une fois, on a souvent l'impression que les jeunes sont tous très engagés pour le climat, c'est pas le cas, mais il y en a. Fait qu'on a voulu répondre à cet appel-là. Donc c'est des cohortes d'un an où on accompagne 10 jeunes de entre 11 et 17 ans. On les forme à la base du journalisme, on fait du mentorat pendant toute cette année, on leur présente différents intervenants de différents milieux pour qu'ils aient une vue d'ensemble. Et puis on publie leurs textes sur 1.5, c'est ça la section jeunesse sur 1.5. Donc chaque jeune publie entre 2, 3, 4 textes, suivant s'il est très motivé, qu'on va repartager au même titre que nos propres articles. On va leur donner la même visibilité à ces jeunes-là. Puis c'est vraiment un programme, c'est beau de voir l'engagement de ces jeunes, de voir à quel point ils sont impliqués, et puis il y en a même qui renouvellent d'une année sur l'autre. C'est un vraiment beau programme qui vient d'être renouvelé pour 3 ans, donc on est très, très content de ça. Puis par exemple, il y a un festival au Québec qui est le festival de Carleton-sur-Mer, qui est le festival de journalisme.
Où j'étais cette année, en 2024, ouais. Oui d'ailleurs, et on en a parlé dans l'atelier des médias, et dans lequel vous souhaitez être présent à la prochaine édition.
Oui, parce que c'est l'environnement qui est comme thématique principale, fait qu'on se dit que ça fait bien, et puis on aimerait emmener justement ces jeunes au festival de Carleton pour leur faire vivre ça. Puis on avait dit que si on gagnait le prix de l'Organisation internationale de la francophonie, le prix Innovation Média, l'argent servirait notamment à amener ces jeunes à Carleton. Fait que c'est un beau retour de ça.
Un beau projet. La jeunesse n'est pas le futur, c'est le présent. Merci beaucoup Clémence Lalose.
Merci.
Je rappelle que vous êtes cofondatrice du média francophone québécois 1.5. Plus d'informations sur 1.5.ca en toutes lettres et en français, bien sûr. À bientôt.
Merci.
Clémence.
Merci.
C'est ainsi que se termine l'atelier des médias dans lequel nous vous diffusions un entretien enregistré tout début octobre 2024 à Paris dans le cadre du Festival de la Francophonie. Merci à Boris Vichit des moyens techniques de RFI. Merci bien sûr à Simon De Creuse, le réalisateur de l'atelier des médias. Une émission de radio, vous le savez, qui est d'abord diffusée en podcast. Vous la trouverez chaque samedi sur l'application d'écoute de votre choix. Notre adresse de contact, c'est atelier@rfi.fr. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouveau numéro de l'atelier des médias.